tous, chers auditeurs. Ici Monsieur V pour un nouveau numéro, le 96e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Je suis donc en compagnie de Monsieur Vernochet et avec qui nous allons décrypter les derniers mouvements dans l'actualité, l'actualité qui est assez riche. Alors Monsieur Vernochet, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quels sont les sujets au menu, au programme?
L'actualité, cher Monsieur V, est torrentielle. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. En ces temps de déshérence, pour ne pas dire de malheur, espérons que le ciel ne nous tombera pas sous la tête par tout attis et que nous allons retomber sur nos pattes. Mais même Monsieur Macron commence, on va y venir, on y reviendra, commence à avoir un peu les chocottes.
Oui, à plus forte raison. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, des tensions entre l'Iran et Israël, ce n'est pas nouveau, vous me direz, mais donc, samedi dernier, récemment, l'Iran a opéré une attaque contre Israël. Qu'en est-il ?
Oui, les événements prennent mauvaise tournure. Alors, je vais citer l'ancien ministre socialiste, mais l'un des rares hommes véritablement compétents et intelligents, bien que ce soit une belle intelligence dévoyée, mais il y en a beaucoup par les temps qui courent. Je parle d'Hubert Védrine, qui était invité sur BFM et face à je ne veux pas être trop désagréable face à Ulysse Gosset, qui n'y comprend rien. Je pense qu'il a le cerveau ramolli. Enfin, plutôt, il a du fromage blanc à la place de cervelle. Védrine lui disait « Israël qui a attaqué l'Iran ». Il disait « Mais non, vous vous trompez, c'est le contraire. » Alors Védrine, deux fois, trois fois, lui dit « Non, c'est Israël qui a attaqué le territoire iranien ». En lieu et place du consulat iranien à Damas, mais un consulat, c'est un territoire national, c'est en extraterritorialité. Donc c'est bien Israël qui a pris l'initiative. Le pauvre Gosset était perdu parce qu'il comprend pas. Dès qu'on remet les idées à l'endroit, ces gens-là sont perdus. Ce sont ce que j'ai déjà appelé à la suite de Swift, des topsy-turvy creatures, des brumsticks. Ils marchent la tête en bas. Bon, passons sur, donc, Monsieur Védrine l'a bien dit. Alors, je l'ai revu hier soir sur LCI. Là, il était plus modéré. Il se dit qu'il faut pas qu'il ait failli tout. Il a peut-être encore un avenir politique. Ou du moins, l'espère-t-il. Donc Israël a pris l'initiative d'un acte de guerre, ce qu'on appelle un casus belli. C'est pas une déclaration de guerre, mais ça y ressemble. Dans l'histoire récente, je ne connais que les Américains qui en 99 avaient bombardé. Erreur de cartographie, avait-il dit. On avait les mauvaises cartes. Une carte était ancienne. L'ambassade de Chine à Belgrade pendant la guerre menée par l'OTAN. Guerre uniquement aérienne, parce que il faut avoir des soldats qui soient un peu couillus pour aller affronter les Serbes. Ça, ils n'ont pas fait. Et donc les Américains qui utilisaient, je le rappelle, c'est l'occasion de le faire, des bombes au graphite contre les centrales électriques serbes. Donc de la fédération la fédération yougoslave, et c'était considéré à l'époque, ça doit l'être toujours, comme un crime de guerre puisque ça atteint des infrastructures civiles. Et maintenant on pousse on y reviendra sans doute tout à l'heure, des cris d'orfraie parce que les Russes attaquent les centrales thermiques ou les raffineries de pétrole ukrainiens. Bon, c'est la guerre, elle est ainsi faite. Mais il y en a qui voudraient que l'un combatte avec un bras attaché dans le dos et eux se croient tout permis. Alors c'est un peu le cas d'Israël qui a le droit d'aller frapper, parce que les bombardements sont pas quotidiens sur les positions syriennes. Il y a eu, je rappelle, un certain nombre de morts à Alep il y a quelque temps. Il y avait eu aussi un attentat à la bombe, que ça fait toujours un nombre sérieux, très significatif de cadavres. Et bien, Israël se croit le droit de porter des coups, mais ne supporte pas d'en recevoir. Puis là, je vais peut-être vous rendre la parole, cher Monsieur V, c'était au fond un camouflet, c'est un l'attaque de samedi soir est un camouflet qui vient après l'affaire du 7 février. Et donc, ces Palestiniens qui font sauter le mur d'enceinte de leur prison pour aller attaquer les colonies périphériques, adjacentes, voisines. Camouflet, je dis, bien que... Ça, c'est la suite de mon propos. Bien que tout le monde ait crié victoire du côté israélien, c'est un camouflet. Leur espace aérien n'est pas inviolable. Il a été violé, même si les drones et les missiles de croisière ont été abattus.
Oui, ça, nous allons y revenir. Mais alors, tout d'abord, pourquoi Netanyahou a-t-il frappé le consulat d'Iran en Syrie? Qu'est-ce qui a motivé cette
frappe? C'est une très bonne
question.
Il y a toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'au sein de son cabinet, il y a ce que l'ancien Premier ministre et ancien ministre de la Défense israélien, Ehud Barak, que j'ai vu toujours sur LCI, c'est une très 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 bonne chaîne LCI, quand on arrive à faire le tri entre leur délire propagandiste, la langue de bois, la langue de béton même. Et Ehud Barak a dit, mais il y a des ministres et un personnel politique important qui est messianiste, c'est-à-dire, au sens propre du terme, ils veulent faire revenir le Messie. Alors normalement, c'est à l'issue d'Armageddon, c'est-à-dire la confrontation finale. Peut-être, alors par Armageddon, on peut entendre la guerre mondiale, où là, c'est peut-être l'affrontement contre l'Iran, une super guerre régionale. Donc, il y a d'un côté ces messianiques, messianistes, qui sont des fous furieux, ce sont des fanatiques. Ils n'ont rien à envier à Daesh, au pire des talibans, et encore les talibans ne doivent pas l'être autant. Au pire des talibans, aux gens de Boko Haram, ceux qui ont la foi du charbonnier et qui enlèvent des jeunes chrétiennes ou qui incendient ou massacrent les villages chrétiens là-bas au Nigeria. Et donc il y a ces gens qui poussent à la roue, mais depuis des années et des années. Et là, ils se disent que le fruit est mûr, que la situation est arrivée à terme, que nous en sommes à ce que on appelle en langage savant le momentum historique, la bonne conjoncture. Et puis Monsieur Netanyahu, qui lui n'est pas aussi extrémiste que cela, simplement c'est aussi un eschatologue, il veut le grand Israël. La terre d'Israël a été promise à eux et à eux seuls, puisque n'oubliez pas que depuis 2018, l'État hébreu est un État juif. Le seul État, on va dire que je suis... mais non, je ne le suis pas. Le seul État ethnique au monde. Il n'y a pas d'autres ethniques qui disent nous sommes ci, nous sommes... Voilà. Eux, ils sont, c'est l'État juif. Et à personne d'autre. Surtout pas aux Palestiniens, qui sont tolérés, ceux qui ont la nationalité Israël sont tolérés, à condition qu'ils taisent et qu'ils travaillent, qu'ils produisent des bonnes oranges de Jaffa. Eh bien, la terre leur a été promise. Monsieur Netanyahou est un héritier d'un athée, d'un juif athée, ça existe. Le judaïsme peut ne pas avoir de dieu, puisque le peuple juif est son propre dieu et son dieu à lui-même. Du Nil à l'Euphrate, le père de Monsieur Netanyahou était... le secrétaire de Jabotinsky, qui a laissé une trace dans la mémoire, notamment, je crois que c'est en 14, il avait créé une brigade juive qui combattait avec les Anglais, sur les théâtres, sur le théâtre d'Orient. Donc, j'imagine, ma mémoire n'est pas toujours très fidèle, contre les Turcs, contre l'Empire ottoman. Voilà, il y a eu cette brigade juive à l'initiative de Monsieur Jabotinsky. Personnage et figure historique, c'est indéniable. Comme Moshe Dayan l'a été à l'époque de la guerre de 67. Donc, Monsieur Netanyahou, lui, ne serait pas fâché, mais en même temps, c'est un vrai politique. Il flaire, il est relations quand même avec les Américains, même si M. Blinken appartient à la même famille que M. Netanyahou, M. Blinken a un regard plus élevé. Il voit les rapports de force géopolitiques, géostratégiques, les rapports de force géostratégiques et les configurations géopolitiques. Et on sait que l'Amérique, qui s'est empêtrée dans l'Ukraine, on pensait que la Russie serait défaite ou à genoux économiquement, comme l'avait dit M. Le Maire, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, ça ne s'est pas passé selon le schéma prévu. Les guerres ne se passent jamais comme on imagine qu'elles doivent se dérouler. Eh bien, les États-Unis peuvent pas s'embarquer dans un conflit régional, d'autant que leur véritable centre de préoccupation, c'est la mer de Chine, c'est la mer du Japon, c'est l'océan Pacifique. Voilà. Bon, tout n'est pas dit sur la question, mais Monsieur Netanyahou, et là j'en reviens peut-être, on dit il craint de perdre le pouvoir, enfin il n'est pas au pouvoir, il est aux affaires, ce qui n'est pas la même chose, de perdre son siège de Premier ministre et de se retrouver devant les tribunaux pour un ensemble de concussions, mais ça c'est habituel chez nombre de premiers ministres. Il y en a un qui est en, je ne sais pas s'il est toujours en prison, il a dû en sortir, lui c'était pour viol. Hein, ce sont des gens, les gens qui sont au pouvoir, que ce soit en France, aux États-Unis, ce sont des sortes de mafias aujourd'hui. Hein, en tout cas, des organisations crapuleuses, voire criminelles, tout à fait criminelles. Monsieur Netanyahou, lui, s'est quand même empêtré dans Gaza. Il s'est embourbé. On ne va pas dire que Gaza était un piège, encore que si, il vient de retirer un certain nombre de ses soldats. Il a laissé l'équivalent d'une division, donc j'imagine à peu près 10 000 hommes, dans le sud de la bande, mais le nord a été en partie évacué. Ils avaient fait le ménage. Il ne reste plus que des gravats, des décombres, des ruines sur ruines. Après une dernière incursion, d'ailleurs, dans l'hôpital Al-Shifa, qui a fait 300 morts. Alors, M. Netanyahou n'utilise plus guère que le prétexte pour poursuivre son combat. On parle de guerre israélo-palestinienne, mais c'est pas une guerre, c'était tellement asymétrique. D'un côté, des missiles, des F-16, des bombes guidées, des chars d'assaut, des super booters. Booter, c'est le mot français pour bulldozer. On peut pas parler de guerre. Il y a des gens qui sont enterrés dans des tunnels, on sait pas très bien où. Et de l'autre côté, des gens qui ont une machine de guerre, absolument des drones, qui ont une machine de guerre tout à fait extraordinaire. Et des hommes en masse. Hein, 10 000 hommes, 20 000 hommes, 100 000 hommes, je ne sais combien. Israël a mobilisé 300 000 hommes pour l'attaque, l'assaut contre ce ghetto, appelons Gaza une sorte de ghetto, ce camp de concentration à ciel ouvert, même si les gens n'y mourraient pas forcément de faim. Mais enfin, quand vous êtes enfermé dans une enceinte de murs de 5 mètres de haut, on peut dire que c'est une forme de ghetto. Voilà, une forme. Qu'on ne me fasse pas dire non plus, et toujours ce que je ne dis pas ou ce que je ne veux pas dire. Je termine là-dessus. Monsieur Netanyahou s'est vanté d'avoir tué 15 000 membres du Hamas. Mais il faut dire que sur les 33 000, 34 000, 35 000 morts actuellement, dont au moins un bon tiers ce sont des femmes et des enfants, il y a au moins 15 000 Gazaouis qui ont trépassé. Pour la doctrine officielle israélienne, tous les Gazaouis, de même à la limite tous les Palestiniens, tous les Gazaouis sont des membres du Hamas. Puisqu'ils ont soutenu le Hamas, c'est un bon raisonnement, il a été fait déjà à propos de l'Allemagne et du nazisme. Ils ne se sont pas rebellés contre le Hamas, donc ils sont complices du Hamas, donc ils méritent tous de mourir. Mais ils nous avaient promis la disparition, l'élimination, l'éradication des chefs du Hamas. On attend toujours. Alors, comme il n'a pas pu, et ça, c'est pas très joli, comme Monsieur Netanyahou et son armée n'ont pas pu tuer les grands chefs qui sont enterrés, je ne sais où, sont-ils encore dans la bande de Gaza, nul ne le sait. Ils ont tué les enfants d'Ismaël Haniyeh, trois de ses fils et un nombre indéterminé de ses petits-enfants. C'est pas grandiose. Comme on peut pas avoir le père, on s'en prend au fils. Alors, on va dire que j'ai mauvais esprit, que là aussi, c'était une frappe malheureuse, comme la frappe malheureuse sur les trois véhicules de l'organisation non gouvernementale américaine distributrice de repas, dont le trajet était connu, dont l'identification était repérable, visible, dont les mouvements étaient, annoncés très à l'avance. Il y a eu plusieurs frappes hein, de missiles sur ces trois malheureux véhicules et leurs occupants. Il y avait un Australien, un Canadien, un Québécois, je crois, etc. etc. Comme on peut pas, on tape tous azimuts, comme on peut pas taper sur les véritables cibles. D'ailleurs, quelles sont les véritables cibles? Les otages, ou enfin ceux qui sont encore vivants ou survivants, ne sont pas vraiment identifiés, ne sont pas libérés. Rappelons aussi au passage... dire que je suis épouvantablement partial qu'il y a dans les prisons israéliennes à peu près 3 à 4 000, 4 500 otages palestiniens. Alors certains ont commis de vrais crimes, c'est indéniable, certains ont commis de vrais crimes, mais d'autres sont aussi des gamins qui ont jeté des cailloux, par exemple, voilà, ou brandi des pancartes. Comme en France, on y vient d'ailleurs. Mmh. Hein, vous brandissez une pancarte, vous avez 6 mois ferme. Et une pancarte qui ne dit rien. Bon, on vient de le voir récemment avec le collectif Némésis, mais on l'a vu avant, c'est la France devient folle, elle ferait bien de retomber elle aussi sur ses pattes, ça serait pas mal. Voilà ce que l'on peut dire, monsieur Netanyahou s'est enlisé dans le piège Gazaoui, et pour lui c'est une façon d'essayer de s'en sortir, de s'en échapper par des provocations, en essayant d'élargir le conflit, que ce soit au Liban avec le Hezbollah, ou plutôt là, c'était banco gagnant avec l'Iran, d'où l'attaque sur le consulat iranien de Damas.
Et Netanyahou, qui est en perte de vitesse et de popularité, n'a-t-il pas besoin de la guerre, justement?
Oui, mais c'est ramener ça à une question personnelle. Monsieur Netanyahou, effectivement, est guetté à sa sortie, de la Knesset ou de son palais gouvernemental. Il est guetté par la justice. Mais je ne pense pas que psychologiquement, c'est une hypothèse de ma part. Monsieur Netanyahou ne s'en arrête pas à ce type de considération. Il a, d'une certaine façon, il a fait don de sa personne à Israël. Il est sans doute moins fanatique que les messianistes de son cabinet ou du cabinet de guerre, mais c'est un sioniste. Convaincu. D'ailleurs, en cela, on ne peut que... On aimerait avoir des hommes politiques aussi de cette trempe, si je puis dire. Peut-être un peu moins menteurs, hein, quand même. Encore que nous soyons bien servis de ce côté-là, des hommes qui soient peut-être moins hypocrites, qui nous disent pas qu'ils ont l'armée la plus morale du monde, que leur politique, qu'ils sont des grands démocrates. Non, ce ne sont pas des grands démocrates, mais ils essayent, dans la mesure du possible, en naviguant, en louvoyant entre toutes les forces contradictoires qui s'affrontent à travers le monde, entre l'Occident, le Sud, l'Est, l'Ouest. Ils essayent avec une main plus ou moins de fer et plus ou moins de succès, ils essayent de renforcer leur position, ce qui se comprend, c'est le rôle d'un homme d'État.
Et alors, dans tout ça, est-ce que l'Iran peut calmer les ardeurs de Netanyahou?
L'Iran a joué très finement avec son attaque. Alors aujourd'hui, c'est nié, mais on nie tout, on nie surtout toutes les évidences. C'est nié un certain nombre de pays, même la Jordanie. Tout le monde connaissait le parcours des drones, l'heure de l'envoi, l'heure de l'attaque. Les Américains disent non, on ne savait pas. Bon, Israël était prévenu. Ils ont envoyé ces espèces de tondeuses à gazon volantes qui s'appellent des drones. Ça ça va à 150 km/h en faisant un grand ronflement, ça va tout droit. Donc, si on ne peut plus facile à abattre avec des avions, même avec un fusil de chasse, à la limite, et ou avec une artillerie élémentaire, une artillerie anti-aérienne élémentaire, DCA. Même chose pour les missiles de croisière. On avait dit au départ que les Britanniques étaient intervenus aussi, apparemment pas, mais les Français sont intervenus avec leur aviation en Jordanie, depuis la Jordanie. Les Américains, en fait, si on parle du dôme de fer, les Israéliens se prévalent de 98% d'engins volants d'aéronefs abattus. C'est très bien, c'est bel et bon, mais s'ils avaient été réduits à leur seule force, il n'y en aurait peut-être que 60 ou 70%.
Oui, et à quel prix ?
Et à quel prix ? Ça a coûté 1 milliard au total. Bon, tout de suite, disons, si l'opération devait se répéter sur plusieurs jours de suite, ou plusieurs semaines, il faudrait trouver les fonds, hein, 1 milliard à chaque coup, et puis les matériels, les usines d'armement aussi puissantes soient-elles aux États-Unis, ne produisent pas tant que ça. Déjà, les réserves ont été épuisées par la guerre d'Ukraine. Les réserves états-uniennes qui étaient situées déjà en Israël, mais aussi en Corée du Sud et peut-être même au Japon, ont été largement ponctionnées, vidées pour alimenter le théâtre des opérations ukrainiens. Ce n'est pas un grand succès. Pour les Israéliens, contrairement à ce qu'ils disent, à ce qu'ils affirment, notre dôme est invincible. Alors, il est tellement invincible qu'il y a quelques missiles balistiques, je ne sais pas, 4, 5, peut-être plus. Je ne sais pas si certains ont été interceptés, mais on n'en parle pas beaucoup. Ils sont arrivés, ils ont percuté le tarmac d'un aéroport militaire à proximité de la centrale atomique de Dimona. Les Iraniens ont fait preuve de leur capacité à maîtriser les trajectoires, à maîtriser beaucoup de choses, à ne viser que des objectifs militaires d'ailleurs, et donc ont donné un avertissement en disant « nous avons la capacité de faire, nous ne le faisons pas, personne n'a été blessé, les dégâts matériels en Israël sont minimes ». Mais ils ont montré que leurs missiles balistiques, les seuls et les plus dangereux, étaient capables de traverser, je n'ai pas dit de percer, de traverser le fameux dôme de fer qui était censé protéger, surtout, vous pouvez imaginer, l'aéroport militaire à proximité d'Imona où sont entreposés les 150, 200, 300 têtes nucléaires israéliennes, à quel point c'est un point stratégique, névralgique, et à quel point il peut être protégé.
Du coup, cette attaque iranienne était donc qu'un avertissement, en quelque sorte.
Une démonstration de force, une démonstration plus moins que de force, que de capacité. Nous pouvons faire. Et donc, les Iraniens avaient rendu la monnaie de leur pièce. Vous avez frappé notre consulat, vous avez tué le numéro 3 et le numéro 4 des gardiens de la Révolution, les passes d'Aran. Nous vous infligeons ce petit camouflet de montrer que votre espace aérien n'est pas impénétrable et que si nous le voulions, nous pouvions aller plus loin et plus fort. Donc c'est un avertissement, c'est un signal. Et puis, c'est aussi, pour l'Iran, c'est un test. Ils ont pu voir quels étaient les moyens mis en branle pour assurer la défense d'Israël, que ce soit la défense éloignée, celle qui est dans le golfe Persique, avec les bâtiments de guerre, les frégates lanceuses d'engins des Américains, qui ont dû en griller pas mal de leurs missiles. Je pense que c'est un ordre de grandeur que les roquettes tirées à partir des avions, mais si on tire roquettes pour un drone qui vaut 20 000, 30 000 peut-être dollars, on tire une roquette qui en vaut de 80 000 à 200 000. C'est la note est salée et elle monte très vite de ce point de vue-là. Je dis bien, c'est pas le dôme de fer qui a arrêté la vague d'assaut, de pseudo-assaut, puisqu'il n'y avait pas véritablement d'assaut, ce sont les forces américaines. Hein, c'est eux. Alors bien sûr, Israël se prévaut de ce succès, mais Israël n'a pas à s'en prévaloir.
Oui, sans aide extérieure, il n'aurait pas pu se défendre complètement.
Il n'aurait pas pu. C'était inenvisageable.
La note a été encore plus salée que la mer morte.
C'est assez bien vu.
Malgré tout, ne risque-t-on pas une riposte également des États-Unis, par exemple, qui pourrait vouloir...
Alors, M. Biden a dit « halte au feu ». Un coup partout, bon ben voilà, maintenant c'est pas la mi-temps, vous rentrez, chacun rentre chez soi, personne n'a perdu la face, Israël encore une fois, dit, vous voyez à quel point nous sommes bien protégés, nos défenses sont impénétrables, invincibles, et l'Iran a dit qu'il réagirait à l'attaque contre son consulat, donc contre son territoire, comme l'a dit Monsieur Hubert Védrine, ex-ministre des Affaires étrangères français socialiste, et également un homme fort intelligent, mais empêtré dans la langue de bois, comme le général Desportes, qui ont eu Desportes, qui a porté un regard, des regards un peu non conventionnels, le général Desportes venant au secours de M. Macron en disant maintenant, halte au feu, pas d'escalade, de toute façon, personne ne pourrait suivre. Hein. Déjà, M. Macron, on ne sait pas s'il y a des bruits insistants qui circulent sur le fait qu'il ait renvoyé un certain nombre, une centaine, je ne sais pas, oui, à peu près, de légionnaires français sur le front ukrainien, mais pour assurer des tâches logistiques d'assistance, de génie militaire. Génie militaire, c'est ce qu'on appelait autrefois le train. Si c'est vrai, ben c'est grave. Et comme l'avait dit, d'ailleurs, là je fais une incidente, l'avait dit Piotr Tolstoï, un petit freluquet de CNews, il le dominait, les épaules du CNewsien arrivaient aux épaules de Piotr Tolstoï, il a dit envoyez-nous vos gars et vous rapatrierez rapidement des sacs à viande, enfin des cercueils, des sacs, on met les cadavres dans des sacs. Vous savez, des gros sacs noirs, on n'en laissera pas réchapper un seul pour la bonne et simple raison que les Russes ne peuvent pas, qui sont à l'offensive actuellement, une petite offensive discrète, ne peuvent pas se permettre que la France donne le mauvais exemple. Elle l'avait fait déjà avec les véhicules blindés de l'avant. S'il y a des soldats français qui viennent, et si on laisse faire, eh bien, il y en a d'autres qui arriveront, des Polonais, des Lituaniens, des je ne sais quoi, surtout des Polonais. Et il y a déjà des Polonais qui combattent d'ailleurs, ou éventuellement d'ailleurs, des Anglais. Donc là aussi, c'est une forme de casus belli, on ne laissera pas faire. Ça, c'est dit.
Si la France décide d'envoyer des troupes, ce serait suicidaire en fait.
Suicidaire pour nos hommes. On voit déjà M. Macron qui se promène dans des petits cimetières de croix de bois. Alors je ne sais pas, il n'a pas de bouquet à la main, mais il doit être très fier, très content de lui, puisqu'il a dit vous n'oubliez pas qu'il avait dit dans une réunion non officielle, je crois que c'était dans un avion retour de je ne sais où, puisqu'il est toujours en balade, d'ici l'été, ou d'ici, j'enverrai des mecs. Les soldats, ça devient des mecs dans la bouche de M. Macron.
Et est-ce que ces mecs auraient envie d'y aller ?
Alors, encore un instant peut-être sur la situation, parce qu'elle est grave. M. Biden a bien dit qu'il ne voulait pas d'escalade, il ne voulait pas d'attaque de l'Iran, à la fois parce que ce serait aussi suicidaire pour les États-Unis. M. Netanyahu est un homme qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'obéit à personne, et surtout pas à M. Biden ni aux États-Unis, puisque eux-mêmes sont le 51e État de la Grande Amérique, mais ce 51e État est peut-être, non pas le dernier, mais le premier, à sa façon. Les forces présentes au sein des États-Unis du lobby pro-israélien sont extrêmement puissantes, même si je ne suis pas sûr qu'ils suivent tous M. Netanyahu dans ses errances et dans sa forme de folie. On peut bien qualifier ça comme ça. Un certain nombre d'Israéliens, et pas des moindres, je parlais de, d'Ehud Barak considère que là les choses vont trop loin. Et Ehud Barak n'est pas un mou, c'est un véritable sioniste, c'est pas un défaitiste. Il n'y a pas que des intellectuels qui se rendent compte que les choses vont loin et qu'elles ne doivent pas aller trop loin. Donc, monsieur Netanyahou va y aller. Alors, c'est peut-être, nous sommes aujourd'hui le 16 avril. Ce soir, demain, après-demain, sans doute avant, je sais qu'il y a une fête importante, une fête juive importante lundi. Peut-être pas quand même le jour du Shabbat, c'est vendredi. Donc, ça peut être aussi bien samedi. Jour anniversaire de l'incursion des drones iraniens. Alors ils vont y aller. Que vont-ils faire? Ils n'iront pas frapper les Houthis, bien qu'ils aient arraisonné un bâtiment propriété d'un oligarque israélien. Ça c'était en mer Rouge. Il y a de grandes chances au fond que pour limiter la casse du point de vue géopolitique, ils attaquent le Liban. Et le Hezbollah, le Liban est faible, n'a pas de pouvoir politique consistant, structuré. La faillite économique sévit, on peut le dire. Je cherchais le mot, elle est rampante, mais enfin bon, les Libanais tirent la langue, ça c'est indéniable. Le Hezbollah fait, bien sûr, lance des roquettes sur Israël et sur les forces israéliennes, mais en même temps se dérobe à l'affrontement. Et ils ont raison, parce que si le Hezbollah entre dans la danse, l'Iran pourra éventuellement suivre également. Donc là, ça risque, le risque d'embrasement régional est réel. Si. Mais on voit mal, M. Netanyahou, quelle option va-t-il choisir? Je pense que s'il avait voulu frapper directement l'Iran, il l'aurait déjà fait. Peut-être le fera-t-il. Je rappelle que l'Allemagne, très généreusement, a doté l'État hébreu de plusieurs, trois, quatre, super sous-marins. C'est pas des petits sous-marins, même s'ils ne sont pas nucléaires, des sous-marins au diesel, et que ces sous-marins sont des sous-marins lanceurs d'engins qui peuvent tirer, je ne sais pas s'ils peuvent tirer en immersion ou en faisant depuis la mer Rouge sur des points rapprochés du territoire iranien. C'est tout à fait possible. Parce que les F-16 auraient besoin, les F-16 israéliens, qui sont d'ailleurs des engins relativement âgés, auraient besoin d'un ravitaillement en vol, et les Israéliens n'ont pas cette capacité. Il faudrait que les Américains, qui s'y refusent, s'engagent aussi dans cette mêlée. Et encore une fois, M. Biden, qui a eu des mots très durs, des échanges très acerbes avec M. Netanyahou ces derniers mois, nous sommes à 6 mois de guerre quand même. Donc si le Hamas n'a pas été défait et si Israël n'a pas gagné, ça veut dire qu'Israël a perdu. Pensez à ça, on en est à 6 mois. C'est pour ça que je parlais de Bourbier tout à l'heure, en parlant de l'affaire de Gaza, et que l'extension régionale, la confrontation avec l'Iran peut être une solution pour tenter de s'échapper par le haut en impliquant les États-Unis, parce que c'est ça le but de la manœuvre. Israël n'ayant pas les moyens de sa guerre, elle essaye toujours de la faire faire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en février 91 avec l'Irak. Ensuite, en 2003, les Israéliens ont été beaucoup plus prudents. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, des missiles arrivaient, mais c'était des gros pétards, pas mouillés, mais des gros pétards. C'était les scuds de Saddam Hussein qui faisaient des gros trous, qui ont fait des victimes, mais beaucoup de victimes, c'était par crise cardiaque. Le montrant en 91 que le territoire israélien n'était pas inviolable.
Et donc Israël aimerait tenterait de faire la guerre à l'Iran par les USA.
Ils essayent depuis longtemps déjà.
pour qu'eux ne s'en prennent qu'au Hezbollah, au Myanmar.
Pas forcément. Oui, ils auraient déjà à défendre leurs propres frontières nord, les Israéliens, mais de toute façon, il faudrait impliquer les Anglais, les Français, tout le monde, et rester en retrait. Vous savez, il y avait un gars, le Rav Shon Shaya, je crois, sont des gens qui aiment raconter des petites fables très amusantes et qui montraient deux coqs qui s'entretuaient, puis il y avait le vieux petit coq miteux dans un coin. Alors c'est le Rav Shon Shaya s'identifiait au petit coq miteux. Vous voyez les deux autres gros grands coqs s'entretuer, et lui était témoin et récoltait les poules de la basse-cour à l'arrivée. Je vous renvoie aux vidéos du Rav Shon Shaya. Il y en a d'autres du même tonneau qui sont croquignolettes.
Très bien. Allons un petit peu sur un autre sujet, mais tout aussi révoltant, tout aussi triste, la multiplication des attaques au couteau. On en a un petit peu partout, mais là, nous en avons vu, notamment à Sydney, avec un évêque qui s'est fait poignarder.
Oui, alors c'était hier, le 15. Le fait en soi est choquant. L'avant-veille, il y avait eu une petite tuerie au couteau, 6 morts et X blessés, dont un enfant en bas âge, un poupon. En français, on ne dit pas bébé, on dit poupon. C'est joli. Et on ne parlait pas de. On parlait de pouponnière autrefois, du temps où on parlait français, hein, mais c'est un temps révolu. Eh bien, on sait pas pourquoi il y a cette poussée de fièvre, mais il y a déjà eu, autrefois, les Australiens avaient été visés, c'était en Indonésie, une centaine d'Australiens ou plus avaient péri dans l'explosion d'une boîte de nuit, mais c'était il y a 15 ans ou plus, ou 20 ans. Mais donc, la zone est chaude, hein, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On n'est pas loin de Timor-Oriental. Il y a eu des guerres civiles avec des fanatismes musulmans assez féroces. J'essaye de retrouver le nom des. Bon, peu importe, il y avait les tigres tamouls, l'ilam tamoul. Enfin, la région est chaude, même si elle est loin et même si on n'en parle pas. Il faut dire que chez nous, l'Angleterre n'est pas épargnée, l'Allemagne non plus, et la France, on l'a vu ces temps-ci se multiplier des attaques. À Nantes aussi. Mais à Nantes, le cas est intéressant. Je vais revenir, hein, sur
Et
Sydney.
Bordeaux.
Pardon?
Et Bordeaux
À
également.
Bordeaux. C'est à Bordeaux où ce sont deux musulmans qui, avant la fin du ramadan ou à la fin du ramadan, étaient en train de boire de l'alcool dans la rue, ce qui n'est pas bien, on ne boit pas dans la rue, hein. On fait ça chez soi tranquillement, et qui se sont fait attaquer par un Afghan qui les a surinés, il les a pas tués, je crois, mais il a dû les esquinter, parce que on a vu aussi. Une petite fille qui a été tuée par ses petites camarades de classe parce que elle se mettait du rouge à lèvres, ce qui n'est pas bien pour une petite fille d'ailleurs. Les petites filles devraient penser à leurs études et qu'elle était habillée peut-être un peu trop court. Là, il y a les événements s'accélèrent, se multiplient et s'accélèrent. Et ce n'est pas un bon présage, à telle enseigne que M. Macron se penchait sur une maquette du Stade de France pour y déporter, y dépayser, si l'on peut dire, y délocaliser la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques. Alors, je reviens à Sydney. Ce qui est extrêmement choquant, c'est que le gars a été molesté, ce qui est normal. Mais j'ai vu une photo. Il est à terre et il est hilar, littéralement hilar de ce qu'il vient de faire. Alors, le plus choquant pour moi, en dehors de cet acte barbare, cet acte inqualifiable, innommable, ineffable, c'est que la presse, qui est si avide d'épisodes sanguinolents, n'ait pas diffusé les images, pourtant ce n'était pas difficile, les images du gars qui avance vers le maître-autel. Le prêtre-évêque est en train d'officier, c'est un prêtre syriaque, c'est une des vieilles églises de l'Orient, ce qui veut dire qu'il y a une communauté syriaque relativement importante en Sydney, en Australie, et il se met à le frapper à coups de couteau. On essaye, des fidèles arrivent pour essayer de le retenir, et continuent à frapper. Apparemment, la lame était assez courte, l'évêque n'est pas mort, mais il a reçu au moins 20 coups de couteau, et le type frappe de façon répétée. Pourquoi nos médias ne diffusent-ils pas ces images? Hein, la séquence fait 15 secondes, 15 secondes éprouvantes par sa violence, mais on nous montre tellement de saloperies en tout genre, même on pouvait flouter un peu, mais montrer à quoi ressemble une attaque au couteau, puisqu'elle a été filmée.
Exactement. Je n'ai pas entendu les médias parler d'actes christianophobes.
Oui, c'est étrange.
C'est un mot qu'on ne voit pas souvent.
Alors là, on n'a pas rendu encore de rapport, mais cela fait 5 ans que Notre-Dame a flambé, et il y a toujours alors on dit non, c'est pas un mégot. Je vois pas comment un mégot aurait pu enflammer des poutres dures comme du béton, aussi inenflammables que du béton, ou un court-circuit. Alors on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas comment. Surtout la vitesse de propagation du feu, on se fout de la gueule de qui? Quelques temps avant l'incendie de Notre-Dame, on avait attrapé trois jeunes femmes un peu frappadingues qui avaient concentré des bonbonnes de gaz et qui voulaient s'attaquer à Notre-Dame. Il y a eu encore récemment un type qui a été arrêté et qui voulait aussi perpétrer un attentat contre Notre-Dame. Je me souviens, et ça restera toujours dans ma mémoire, M. Macron arrivant, se dirigeant vers les lieux de l'incendie avec son Premier ministre, le maire du Havre, celui qui voudrait postuler, il avait une barbe blanche, non, une barbe noire et blanche à la fois à l'époque, qui voudrait postuler aujourd'hui, peut-être en 2027 à la présidence, et eux aussi étaient hilares. Enfin, pas vraiment hilares, mais ils arboraient un sourire satisfait. Beaucoup d'églises flambent en France, beaucoup. Il y a celles qu'on démolit parce qu'on ne les a pas entretenues, il y a celles qu'on transforme en salle de jeu, en salle de ceci, salle de sport. Il y a la petite église Sainte-Rita qui était un endroit assez rigolo, Sainte-Rita étant la patronne des causes désespérées, qui était dans le 15e arrondissement. Beaucoup d'Antillaises y venaient parce qu'il y avait un hôtel à Sainte-Rita et elles cherchaient un mari ou à retrouver un amour perdu. Et elles venaient déposer des petits billets au pied de Sainte-Rita. C'était un endroit... Alors, on y faisait aussi des messes pour les animaux et pour les motards. Enfin, c'était un endroit folklorique et sympathique. Sainte-Rita a failli être démolie. Et puis, aujourd'hui, on va en faire une salle d'escalade. Pourquoi pas ? Voilà le sort réservé à nos lieux de culte. Par contre, on bâtit des mosquées et rien d'islamophobe dans mon propos. Je crois être un bon connaisseur de l'islam. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les égarés » que je vous recommande pour montrer quelles sont les franges, non pas extrémistes, mais les franges dissidentes hérétique et schismatique de l'islam, en l'occurrence le wahhabisme, et de bien faire le distinguo entre effectivement islam et islamisme, parce que le distinguo, il faut le faire. Et j'ai écrit aussi un livre que je vous recommande, qui a dû un peu vieillir, Iran, la destruction nécessaire. C'était aux éditions Xenia, c'est Slobodan Despot, qui est un écrivain de talent, de réel talent, un Suisse d'origine serbe, qui l'avait publié en son temps. Donc, la christianophobie s'attaque à nos cimetières, on tague les églises, on les profane. Si on faisait ça dans les mosquées ou dans les synagogues, alors la France serait en ébullition. Mais quand c'est les églises, ce n'est pas grave. Il faudrait peut-être que ce qui reste de chrétiens dans ce pays se réveille. Et même s'ils ont écouté le Christ qui dit que si vous recevez un soufflet Vous devez tendre l'autre joue. Le Christ, dans le Notre Père, ne parle que du pardon des offenses, pardonner à ceux qui vous ont offensé. Mais là, ce n'est pas une question d'offense, c'est une question existentielle, c'est une question de survie. On doit protéger nous-mêmes nos enfants. Donc, c'est de la comme pour Israël, c'est de la légitime défense. Il faudrait y songer.
Exactement. Et on pourrait refaire toute une émission, justement, sur tous les cas de racisme anti-blanc, christianophobie, tous ces mots interdits.
Oui, mais le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est pas possible. Les victimes sont des victimes éternelles et les blancs sont des bourreaux sempiternels. On reste, c'est une ontologie essentiellement des bourreaux et les autres sont essentiellement des victimes qui ont droit à des indemnisations. Hein, faut pas oublier. Dès que vous avez le statut de victime, vous pouvez demander à boule les pépettes.
Et oui, petite information comme ça dont je me souviens que je cite comme ça, c'était la comédienne Audrey Lamy, la sœur d'Alexandra Lamy, qui a eu sa maison cambriolée et qui a tout de suite retiré sa plainte dès qu'elle s'est aperçue que les cambrioleurs étaient issus
des immigrés sans papier. Voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'être immigré sans papier, ça donne évidemment tous les droits. Notamment, il y a encore eu une affaire avec un gars sous OQTF. Mais il y a tellement d'affaires que là encore, c'est encore une affaire de viol, que sais-je. Ah non, 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 c'est extraordinaire. La dernière en date, c'est intéressant. On a repéré un gars qui avait, je sais pas, là, il parle d'une djellaba, mais on ne sait pas. Il devait porter un vêtement traditionnel oriental et il avait une carabine sous sa djellaba. Il était accompagné, il était dans le métro. Alors des gens s'en sont un peu émus. La police est arrivée. Alors un grand nombre de policiers. Le gars a été arrêté sans casse, sans mal. C'était un jeune gars de 18 ans. Enfin, c'était une balle de long rif. Bon, enfin, on peut une balle de long rif dans la tête, on s'en relève pas. Hein. Et il est passé en comparution immédiate. On s'est aperçu qu'il avait un casier déjà à 18 ans long comme le bras, qu'il était sous OQTF, et bien il a été relâché. Il a été relâché, alors on lui a demandé simplement de venir se présenter une fois par semaine au commissariat, alors que le gars avait été arrêté déjà pour viol avec violence. Donc c'est un type violent, potentiellement dangereux. Il a présenté. Non, non, il n'a pas été placé sous écrou immédiatement. Et on lui a c'est détention d'armes, il risque une amende pour une détention d'armes. Enfin bon, on se promène pas chez nous. Enfin c'est le temps est fini. On pouvait se balader avec un fusil à la bretelle. Non,
que
un
dire.
Fusil à l'épaule. La bretelle du fusil à l'épaule.
Que dire Que dire de la justice?
Ça sera la justice est malade. Alors, ce n'est pas tous les magistrats, parce qu'il y en a, mais on doit confier ce genre d'affaires à des magistrats triés sur volet, soigneusement choisis et soigneusement encartés.
Ce sera l'objet certainement d'une prochaine émission. Il y aura tant à dire.
Il y aurait tant à dire. C'était, je le rappelle, le 96e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Et nous sommes le 16 avril, an de disgrâce 2024.
Très bien. Merci beaucoup, cher Monsieur Vernochet. Et à très bientôt, chers auditeurs.
Merci, Monsieur V. Et n'oubliez pas d'annoncer qu'il y a une conférence qui se tiendra samedi, on ne sait où, à Paris, intramuros, mais pas sur ces questions. Toutes les questions sont pénibles, d'ailleurs, à l'heure actuelle, sur le wokisme et le transhumanisme comme idéologie totalitaire.
Tout à fait. Et vous serez accompagné de Thomas Boussillon, qui a sorti
le livre. Qui a sorti un petit livre chez Contre-Culture sur l'infantilisation de la société, que je n'ai pas achevé, dont je n'ai pas achevé la lecture, mais qui est tout à fait excellent et que je recommande très chaudement.
Très bien. Merci beaucoup. Et à samedi.
Merci, Monsieur V. Merci à vous.